Chapitre 83. Étant donné les 7 enfants qu'il doit nourrir, l'intégrité du gardien de nuit n'a pas résisté longtemps. Quelques belles pièces d'argent l'ont convaincu de fermer les yeux sur une simple visite nocturne. L'un des cochers est resté avec lui dans son local pour partager, ou plutôt pour lui servir, une bouteille de gnôl qui a fini par l'assoupir profondément. Dans les sous-sols, deux cochers équipés de lanternes escortent Charles, qui explore les lieux en essayant de se repérer sur son plan. Vincent suit, étudiant parois et sol, à la recherche du moindre indice capable de les mener à des vestiges. La petite escouade remonte un corridor moderne qui distribue les soubassements en visitant méthodiquement le moindre aménagement. De chaque côté du couloir, une série de portes marque les entrées de salles aux dimensions modestes, le plus souvent affecté à l'archivage. Chaque réduit est numéroté et dédié à un service. La volonté de l'empereur Napoléon de formaliser l'état civil des naissances, mariages et décès a considérablement augmenté le volume des documents à conserver. À l'aide du passe du gardien, l'un des hommes déverrouille une nouvelle pièce dans laquelle il entre avec sa lanterne. Charles le rejoint et commence par vérifier la position sur son plan. Il le tourne et le retourne pour réussir à l'orienter. Nous nous trouvons presque au centre de l'emplacement qu'occupait la tour. L'incertitude réside dans le « presque », ironise Vincent, dont le regard survole les amas de paperasses qui remplissent les casiers de bois en s'efforçant de voir ce qui se trouve derrière. D'innombrables enveloppes brunes et dossiers cartonnés s'accumulent, soigneusement étiquetés d'une écriture ronde. Cette unité-là est consacrée au cadastre et au relevé de propriété. Au fond de la pièce, Cavell attrape la lanterne et s'accroupit pour observer la base du mur dans les interstices entre les meubles de rangement. Charles promène son regard sans idée précise de ce qu'il doit chercher. Alors, le carrelage est récent, parfaitement régulier, comme toute la maçonnerie. Mais comment la fameuse tombe peut-elle être dissimulée ? Vincent se penche en avant et s'appuie sur le sol pour mieux voir la lisière entre le sol et le mur, tout en répondant. Deux corps de métier se sont succédés sur le site, ceux qui ont démoli la forteresse, puis ceux qui ont construit cet immeuble à son emplacement. La décision de maintenir la sépulture sur place a forcément été prise par les premiers. Logiquement, ils ont dû la protéger en se servant des matériaux dont ils disposaient en abondance autour d'eux. C'est pour cela que vous étudiez particulièrement la nature des pierres. Des blocs plus anciens seraient révélateurs. Il se relève en se frottant les mains et déclare « En attendant, rien de suspect ici. Passons à la suivante. » Revenu dans le couloir, Vincent jette un œil au plan de Charles. Il se retourne pour compter les réduits déjà visités. « Vous aviez raison, nous approchons du centre de l'ancien tracé. » Le nouveau local dans lequel il pénètre comprend des rayonnages remplis de dossiers classés, comme ils en ont déjà vu des dizaines. Cette unité-là, consacrée à l'aménagement urbain, contient en plus des plans roulés. Alors qu'il s'avance, un détail attire immédiatement l'attention de Vincent. La température ici est légèrement supérieure à celle des autres pièces et l'atmosphère un soupçon plus humide. Vous ne sentez pas ? Demande-t-il à Addison. Si, les ennuis qui vont arriver si nous ne nous dépêchons pas. Charles tire sa montre de son gilet. Il nous reste beaucoup à visiter, commente-t-il en la montrant à Vincent, et il faudra pourtant nous retirer dans peu de temps. Cavell s'accroupit au pied du mur sans se presser. Il passe la main sur le sol. La sensation de relative tiédeur, inédite, vient confirmer sa première impression. Une infime poussière, plus collante que dans les salles précédentes, s'accroche à sa paume et à ses doigts. Il les porte à son nez et les renifle. Il y a quelque chose de différent ici. Se rapprochant des étagères, comme on évalue une étoffe entre le pouce et l'index, il teste la texture du papier et des plans. L'humidité y est présente, c'est indéniable. Addison l'imite, mais son toucher n'est pas aussi affiné. Il est incapable de percevoir ce qu'a décelé Vincent. Cavell retire quelques documents pour dégager le fond des casiers. Il secoue les structures pour s'assurer de la façon dont elles ont été mises en place. Vous soupçonnez quelque chose ? Disons que j'aimerais comprendre. L'humidité ne pourrait-elle pas provenir d'une infiltration ? Possible, mais on trouverait alors des traces de moisissure, or il n'y en a pas. Vincent glisse son bras derrière le meuble pour atteindre le mur. Comme il l'a fait pour le sol, il le tâte avec la paume, aussi loin que possible, pour récolter de la poussière. Il retire les toiles d'araignée ramenées au passage et goûte le dépôt sur ses doigts blanchis. Rien à voir avec le reste. Nous allons devoir déplacer ces casiers. Vous rendez-vous compte du temps que cela va nous prendre ? S'exclame Charles. Raison de plus pour ne pas en perdre. Vincent s'empare d'une brassée de dossiers qu'il dépose près de la porte. Les deux cochers et Charles s'y mettent aussitôt à leur tour. Rapidement, tous les quatre allègent suffisamment le mobilier pour l'écarter du mur d'une coudée. Vincent réussit à se faufiler derrière et ausculte la maçonnerie. Il en a l'habitude et son expérience dans la cave de Flamel lui a appris à ne rien négliger. Comme un médecin, il palpe. Les trois autres le regardent faire avec attention. Cette paroi n'est pas aussi fraîche que celle des réduits voisins. Peut-être est-ce lié à la nature du matériau, mais cela pourrait aussi être dû à un vide derrière. Aidez-moi à décaler complètement le meuble. La nuit touchera bientôt à sa fin, objecte Charles. Nous ne pouvons pas courir le risque d'être pris en train de fouiller un bâtiment officiel. Cette différence m'intrigue. Ne m'obligez pas à repartir avec un doute. Accordez-moi un sursis et votre aide. N'avez-vous pas envie de savoir ? En s'y mettant tous, la manœuvre est rapidement réalisée. Notez la taille irrégulière des blocs et leur rythme de pose. Contrairement à ceux des autres cloisons, ils ne présentent pas l'uniformité d'une fabrication industrielle.
Leur surface a pourtant la même apparence, note l'un des hommes, dubitatif.
On les aura sans doute retaillés pour les fondre dans le décor, en éliminant l'aspect vétuste qui aurait pu les trahir. Cavell s'empare d'une lanterne et la promène lentement pour éclairer en lumière rasante. Charles, lui, s'intéresse au sol. Pensez-vous qu'ici aussi le sol puisse s'abaisser ?
Il serait fait de terre battue, je me poserais la question, mais regardez vous-même, c'est un solide carrelage.
Vincent parvient à l'angle formé par le fond et le côté gauche de la pièce. Il s'arrête.
Voilà qui est curieux, constate-t-il.
Aucune pierre ne passe d'un mur à l'autre. C'est très inattendu.
Que voulez-vous dire ? Regardez, les deux murs n'ont aucun bloc en commun.
Ceux qui composent celui du fond sont tous taillés nets pour s'arrêter au coin.
Ce qui signifie que les deux pans ne sont pas solidaires comme ils devraient l'être.
Partout ailleurs, les assemblages sont imbriqués, pas là.
Votre hypothèse ?
C'est typique de la présence d'une ouverture.
Cavell frappe la paroi. Il y colle son oreille et recommence un peu plus loin.
Je perçois une très légère résonance.
Il cogne encore à plusieurs endroits. Puis il se tourne vers ses comparses et souffle.
Ce mur n'est pas adossé au remblai. Il faut vérifier ce qui se cache derrière. Passer à travers, il nous faudrait des pioches, des barres de mineurs.
Pas forcément. Aidez-moi à reculer encore le meuble pour prendre plus d'élan.
Que diriez-vous ensuite de vous abîmer l'épaule avec moi ?